France 24 présente. Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier.
Bonsoir et bienvenue dans le Café des Sports hebdomadaire. Merci à tous d'être au rendez-vous et d'être en rendez-vous en trois dimensions, derrière votre poste radio, derrière votre écran via Facebook Live et aussi derrière votre écran si vous regardez France 24. Nos invités sont là. Rémi va nous faire un défilé élégant chaque semaine. Je sens une nouvelle chemise. Bonjour Rémi.
Ah oui, une belle chemise comme ça, cousue par une bonne styliste qui s'appelle Laure Bourdon, de la marque LB, et qui d'ailleurs est capable de pouvoir habiller tout le Café des Sports dans le beau pagne africain. Bon, et surtout
on aurait des belles tonalités et des belles couleurs. Alors. Voilà. Bonjour Xavier. Xavier, lui, il s'est habillé en blanc aujourd'hui.
Bonjour Annie, oui, mais avec du grana.
Voilà. C'est pour faire ressortir le bronzage.
Voilà, c'est pour aussi parler, je crois, de la Liga.
La tenue mano à mano.
On va voir.
On peut dire ça. À vos côtés, notre invité de marque du jour, il s'appelle François David. Bonjour François.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors,
bonjour,
nos auditeurs vous connaissent depuis de nombreuses années. D'habitude, vous êtes en direct de Barcelone pour nous parler du football espagnol. Eh bien, aujourd'hui, on parlera avec vous du football espagnol, mais justement en studio. Car ce sera dans nos débats du jour. Coup d'envoi du championnat en Espagne. Ce soir, la Liga du champion d'Europe offrira-t-elle du suspense cette saison ou bien aura-t-on le retour du fameux mano à mano entre Merengue et Blaugrana? Une équipe de Barcelone avec le grand Xavi toujours aux commandes, mais il semble que l'argent promis pour les transferts de nouveaux joueurs ne soit pas encore arrivé. En Ligue 1, la première de Christophe Galtier au Parc des Princes. Le natif de Marseille, désormais parisien, à la tête de son groupe où revient Kylian Mbappé, sera donc là, les stars dans l'effectif, alors que grossissent dans cette équipe et dans ce club les rangs des joueurs mis sur la touche, relégués même dans un loft. Mais qu'est-ce qu'un loft dans un club de football ? Le retour aux sources, le choix de certains joueurs pour finir leur carrière en beauté ou pour se relancer. Nous parlerons notamment des cas de Luis Suarez, l'Uruguayen, et de Timo Werner, l'Allemand. Alors tous, évidemment, font cela aussi en pensant à la Coupe du Monde qui commencera dans quelques semaines. Un bon choix ou un risque, eh bien, nous en parlerons dans cette émission avec, évidemment, pour terminer, les cartons des auditeurs internautes et aussi les vôtres et les nôtres, bien sûr. Dans cette émission, tout le monde a travaillé, notamment David Finzel, Pierre Guérin, Laurent Salerno et puis Yann Bourdelas et Pierre Roland pour ce qui est des moyens vidéo. Le Café des Sports, nos débats sont ouverts. Un an après le départ de sa grande star, sa deuxième grande star, on va dire, Cristiano Ronaldo avait quitté la Liga il y a quelques temps déjà, et bien c'est Messi qui, il y a un an, on s'en souvient, quittait en pleurs le FC Barcelone. Le championnat d'Espagne reprend donc un an après, et une équipe de Barcelone qui, elle, semble avoir repris des couleurs. Alors Messi n'y est pas retourné, mais des couleurs financières qui devraient contribuer à voir revenir l'équipe des Blaugrana, qui sait, au premier plan du football, alors espagnol, mais tout le monde attend évidemment cela sur la scène européenne, car finalement l'an dernier, on se souvient, Xavi était arrivé comme sauveur et Xavi avait réussi à conduire cette équipe sur la deuxième marche derrière le Real Madrid. C'était un peu inespéré. Cette saison, l'équipe s'est renforcée, mais on va d'abord parler finances et on va parler de cela avec vous, François David, parce que le président du club, on se souvient de M. Laporta l'an dernier, disant les finances sont exsangues et il nous reste, nous avons 1,5 milliard de dettes, enfin c'était 1,35 milliard, bon, on ne va pas mégoter peut-être autour de ça. On a un recrutement affiché en tout cas, ou annoncé, d'autour de 200 millions d'euros, voire plus. Mais est-ce que c'est un miracle, un milagro, comme on dit en espagnol, ou est-ce que finalement le Barça, je ne sais pas, a vendu les bijoux de la grand-mère?
Je ne vais pas dire que Joan Laporta est un magicien, même si beaucoup à Barcelone le pensent, mais effectivement, il a hypothéqué une partie du patrimoine du FC Barcelone pour y arriver. Notamment, il a, ce qui paraissait impossible il y a 10 ans, il a sponsorisé le nom du Camp Nou, qui devient maintenant le Spotify Camp Nou, du nom de la marque de streaming musical. Ça leur a apporté 435 millions d'euros. Après, ils ont vendu les droits TV sur 25 ans, une partie de leurs droits TV sur 25 ans, 667 millions. Et là, ils viennent d'activer ce qu'on appelle les palancas, c'est les leviers économiques, deux nouveaux économiques qui vont leur apporter 200 millions d'euros. On n'est pas encore au milliard 335, c'est pour ça que le Barça doit encore faire plus d'efforts maintenant pour pouvoir tout simplement enregistrer dans leur effectif tous les joueurs qui sont arrivés, plus ceux qui ont prolongé leur contrat, Sergi Roberto et surtout Ousmane Dembélé. Demain, aujourd'hui, à l'heure où on parle, pour l'instant, il n'y a aucun joueur du Barça qui peut être enregistré. Ils ont jusqu'à demain, une heure avant le match, contre le Rayo Vallecano à 9h au Camp Nou pour pouvoir inscrire leurs joueurs. Sinon, ce sera la même équipe que l'an passé, moins Dembélé, qui a été prolongé. Donc, ils ont résolvé une partie de leur problème en vendant leur patrimoine, mais ils doivent encore faire plus d'efforts, et notamment vendre des joueurs. Le problème, c'est que personne ne veut partir de Barcelone.
Oui, ça, on en parlera ensuite. Mais Xavier, est-ce que c'est mettre en danger l'existence future du FC Barcelone en vendant autant de patrimoine ?
Ça s'appelle hypothéquer l'avenir. Mais hypothéquer, ça veut dire simplement mettre le nom du Barça, son patrimoine, effectivement, dans la balance, en échange d'argent. Beaucoup d'autres clubs l'ont fait par le passé, et les clubs portugais, même le Real Madrid à une époque, d'une façon un peu moins flamboyante, mais d'une façon aussi... d'une certaine façon, on l'avait également fait. Donc, quand il y a des clubs qui sont endettés, mais qui sont une marque forte, qui ont une identité, qui ont un patrimoine joueur également, ils peuvent se permettre effectivement d'hypothéquer l'avenir en jouant sur cette autorité.
Alors là, ce n'est pas des biens immobiliers. Hein, effectivement, c'est des biens plus virtuels, mais en
aujourd'hui,
même temps...
Aujourd'hui, les biens liés entre guillemets à la propriété intellectuelle, ça a une valeur, même une valeur colossale quand il s'agit du Barça.
Des droits télé,
NFT, e-sport, maintenant...
Exactement.
Voilà,
ils n'ont pas tout bradé quand même, François.
Non, ils bradent qu'une partie.
Ils n'ont surtout pas bradé ce qui est leur poule aux œufs d'or. Et c'est pareil d'ailleurs pour le Real Madrid, c'est le merchandising. Tout ce qui est maillot, tout ce qui est produits dérivés. On sait maintenant, avec le tourisme de masse qui revient maintenant à Barcelone, ils vendent je ne sais pas combien de milliers de maillots par jour. Et ça, c'est à 130, 140 euros le maillot. Je vous laisse imaginer. Ça, c'est une manne financière et c'est la dernière chose qu'ils vont toucher.
Rémi, peut-être que c'est utile qu'il y ait un grand Barça dans ce championnat de la Liga, parce que l'année dernière, on se posait la question, maintenant que les grandes stars étaient parties, est-ce qu'on avait un championnat qui avait un peu perdu de sa superbe ? Est-ce que selon vous, il faut au moins un grand Barça face au Real ?
Oui, parce qu'il faudrait que le Classico puisse conserver sa valeur, mais cependant, en termes de valeur déjà... Les clubs, c'est aussi la valeur économique. Parce que pour avoir un bon club, il faut investir à long terme. Or, qu'est-ce que je suis en train de voir là? C'est qu'on me parle de la valeur marchande du Barça. Je devrais quand même dire que non seulement il y avait cet emprunt, cette dette qui s'élevait à 1,35 milliard, mais aussi le Barça n'a pas de stade. Donc, doit maintenant investir pour le stade à hauteur d'un prêt d'1,5 milliard.
Il y a un énorme projet.
Et voilà, c'est un énorme projet. Or, selon le cabinet de Luat, les rentrées du Barça, au maximum, c'est 485 millions d'euros. Je me souviens qu'en hiver déjà, le Barça était obligé d'aller s'endetter auprès d'une banque qui s'appelle Goldman Sachs. Et c'était à hauteur quand même de 485 millions d'euros également. Et finalement, cet argent, c'était quoi? C'était pour régler les arriérés de salaire.
Ben oui,
sans pour autant oublier les 55 millions de Ferran Torres qu'il fallait payer. Aujourd'hui, on se retrouve devant le même problème dans la mesure où on demande à des footballeurs de baisser encore leur salaire, tels que les Piqué et autres, qui sont là, qui ne comprennent plus grand-chose, sans pour autant oublier qu'à force de brader, on se retrouve sans grand-chose aujourd'hui.
Ça reste quand même mieux maintenant, parce qu'on s'est un petit peu ennuyé de l'an passé. On savait que le Real Madrid était au-dessus, que le Barça allait devoir tirer. Heureusement, Xavi est revenu pour redonner un petit peu d'espoir au Barça. Maintenant, il faut avouer que c'est quand même plus intéressant, Rémi. On va avoir le Real Madrid qui est au top, le Barça qui vient de prendre Lewandowski, qui vient de prendre Rafinha. On retrouve un petit peu cette sensation qu'on avait.
Vous êtes dans le rêve. pour l'instant, Lewandowski n'est pas là. Puisque vous avez dit, il faut activer le dernier levier économique. C'est le dernier. C'est-à-dire que vous sortez votre joker. Ben, attendez, pour l'instant, Lewandowski n'est pas là. Pour l'instant, Kessié n'est pas là. Pour l'instant, vous avez peut-être aussi recruté d'autres joueurs qui sont très importants, mais qui ne sont pas là actuellement. C'est-à-dire que lorsqu'on essaie de regarder quand même ce Barça dont vous êtes en train de vouloir me vanter, c'est 135 millions. Alors, 135 millions au François, niveau de ce qu'on peut parler, les défenses, mais... Pour les entrées, non, il y a combien
alors, François, il y a quand même quelque chose. François, il y a quand même quelque chose. C'est qu'il il faut quand même trouver l'argent, surtout jusqu'au 31 août. Hein, c'est ce qu'on
c'est
vérifiait.
Ça. Ils ont
jusqu'à la fin du mercato.
Ils ont jusqu'au 31 août minuit pour boucler leur effectif et que tous les joueurs qui ont été achetés, et s'ils ont été achetés, c'est que les clubs quand même qui ont vendu ont une certaine confiance dans le Barça pour pouvoir payer. Xavier parlait de patrimoine. On sait que le Barça, c'est une institution. Donc
ils ont payé 0 euros pour Kessié.
Mais ils ont...
Mais 0 euros pour Christensen.
Koundé, Lewandowski, Rafinha, ils ont appris. Mais donc, ils avaient quand même confiance.
C'est sûr que le Barça, on en a parlé souvent dans cette émission, paye aujourd'hui les erreurs de recrutement faites par les précédents responsables. Les précédents dirigeants, les directeurs sportifs qui se sont succédés avec... qui ont accumulé les mauvais choix. Donc, effectivement, le Barça doit aujourd'hui vivre avec ça. Mais malgré ce poids, malgré l'absence, pour le moment, des recrues qu'on évoque et qui, effectivement, nous font rêver tous les supporters du Barça et moi un peu aussi, évidemment.
Donc, la preuve, c'est
il faut rappeler une chose à Rémy Nguno et à tous ses admirateurs.
C'est que
le dernier Classico, sans Lewandowski, sans Rafinha, dernier Classico... Au Madrid, il a été gagné par le Barça 4-0.
Ah,
donc
c'est
on voit
ça,
bien,
vous avez aussi gagné.
On voit bien,
là-bas,
on voit bien,
aux États-Unis.
On voit bien,
voilà
on voit bien.
Saison blanche comme t'as tenu.
On parle de match. On parle de match officiel. La vérité, c'est que ce Barça-là,
quand vous avez
sans les recrues qu'on attend, était capable de faire mieux que le Real. Donc avec les recrues qu'on espère. Hein, et j'ai pas de doute sur le fait que le dirigeant et surtout Laporta finissent par trouver une solution. Il a fini par la trouver l'hiver dernier alors qu'on disait la même chose au sujet des recrues qui étaient annoncées. Eh bien, ce Barça-là sera compétitif sera capable d'empêcher le Real d'être un nouveau champion.
Admettons que le Barça finisse par boucler ses comptes et tous les signes quand même vont dans ce sens. Est-ce que cette équipe, on a été stupéfait de voir tous les achats qu'elle avait fait, toutes les acquisitions de grands joueurs. Donc, on le disait, Kessié... Lewandowski,
Rafinha,
voilà. C'est un comment Xavi a bâti une équipe très forte et il peut se passer de ceux qui l'ont aidé finalement à tenir la fin de la saison l'an dernier. Je pense à Aubameyang et je pense à Depay.
Bah Aubameyang, en fait, maintenant tout ce qui représente une valeur financière pour le Barça sur le marché. Je pense à Frankie De Jong, je pense à Pierre-Emerick Aubameyang qui a une grosse offre de Chelsea. Il veut pas y aller. Des joueurs stratégiques que le Barça pourrait même fils de paille autre joueur maintenant bon si Xavi il doit faire avec cet effectif là il fera. Xavi a voulu des joueurs compétitifs tout de suite, des joueurs comme Lewandowski 33 ans, Rafinha déjà aguerri à l'Angleterre, parce que les jeunes ils les ont, les Pedri, les Gavi, les Arojo, voilà. ils les ont donc il veut une équipe. Xavi c'est un gagneur. Rémi il le précisait, effectivement saison blanche pour le Barça, impossible de voir ça une deuxième année consécutive, comme au Real d'ailleurs. Hein. C'est impossible de voir ça. Donc, ils vont tout faire pour y arriver. Maintenant, c'est vrai que la manière n'est pas très, cavalière.
Non, ouais.
C'est vrai. Faire filtrer dans la presse que Frankie de Jong ne veut pas baisser le salaire dans la presse catalane, etc. Ce sont des méthodes pour qu'après, il se fasse siffler. Martin Braithwaite a été sifflé au Camp Nou lors du match du Gamper. Qui ouvre la saison au Barça, on présente l'effectif au public, il a été sifflé. Il y a des joueurs à sortir, comme Samuel Umtiti, qui n'a pas joué depuis 3 ans. Voilà, Xavier avait raison, c'est la gestion, mauvaise gestion des années passées.
La scène où on attend le Barça, finalement, c'est quand même la scène européenne, Xavier, parce que l'échiquier de la Liga, l'année dernière, même en partant de très loin, en étant dans le fond du classement, changeant d'entraîneur et tout, ils avaient réussi à terminer sur la deuxième marche.
Oui, mais c'est pour ça que je pense que c'est plus simple actuellement pour le Barça de viser la première place en Espagne que de viser une victoire en Ligue des Champions. On voit bien qu'aujourd'hui, les clubs anglais sont au-dessus.
Il va falloir attendre encore un an, c'est ça ?
Le Real a réussi une performance tout à fait inattendue la saison dernière. Il y a aussi le Bayern qui est très fort. On va voir ce que font les clubs italiens, notamment la Juventus et Milan. Pour le Barça, il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, vous avez un club qui est en reconstruction depuis 18 mois. Avec des joueurs qui viennent, qui repartent. Il y en a qui sont venus, ça n'a pas marché. On pense par exemple à Adama Traoré. Voilà, on se dit, tiens, il a profil pour le Barça. Finalement, ça n'a pas marché. Heureusement, ils ne l'ont pas acheté. Il était juste prêté. Mm-hmm. Donc, il est reparti. Donc, voilà. Donc, il y a un potentiel, on le sait, à Barcelone. Mais il y a beaucoup de jeunesse. Il y a des joueurs qui ont de l'expérience. Mm-hmm. François David le rappelait. Mais Lewandowski, il va falloir qu'il s'intègre dans ce jeu-là.
Non, donc, bien sûr, mais
donc,
on va aller
donc,
voir.
Donc, le Barça a gagné la Ligue des Champions. Non, il ne faut pas rêver. Mais le Barça. Barça visait le titre.
Au moins arriver en quart de finale,
oui,
ce qui était leur habitude jusqu'à
présent. Viser le titre de champion, Rémi, je pense que c'est
alors,
un objectif.
Face au Barça, on a évidemment le Real Madrid. Le Real Madrid qui est champion d'Europe, qui vient de remporter la Supercoupe d'Europe, qui peut-être aura un ballon d'or dans ses rangs. Cette année, ils ont fixé la barre très haut. Alors, je me demande si c'est prétentieux de leur part. Ils disent, et Carlo Ancelotti l'a dit ces dernières heures, ils veulent gagner 6 titres cette saison. Ils en ont gagné un pour l'instant. Mais c'est pas trop ambitieux.
Mais il faut dire que le Real Madrid a déjà le meilleur entraîneur du monde pour l'instant, à savoir quelqu'un qui a quand même 4 Ligues des Champions, quelqu'un qui a 4 super coupes d'Europe, quelqu'un qui a quand même 5 championnats remportés dans les
six titres. Et Rémi, ça veut dire toutes les supercoupes, ça veut dire la Coupe d'Espagne où le Real, ça fait quelque temps qu'il l'a pas gagné. C'est aussi remporté évidemment le championnat.
Je vais vous citer aujourd'hui.
Ce qu'a fait Pep Guardiola en 2008.
On peut quand même dire déjà que ils
en
ont gagné un. Et quand vous regardez le Real Madrid, qui peut-être l'année dernière était moins garni que cette année, parce que quand même il y a des renforts.
On a l'impression que c'est la même équipe, c'était la même au coup d'envoi de la Supercoupe comme de la...
C'était pas la même équipe parce que
l'équipe en finale contre
l'équipe
Liverpool.
A été trouvée par Carlo Ancelotti presque au milieu du championnat, en repositionnant Valverde du côté droit pour renforcer beaucoup le milieu de terrain. Aujourd'hui, on a un Camavinga qui prend déjà de l'envergure et puis on a aussi quand même des recrues au niveau de la défense, parce que quand vous vous retrouvez quand même avec... et même au milieu du terrain, vous avez quand même quelqu'un qui a été aussi injecté. On se dit, aussi il y a une jeunesse au niveau du Real.
C'est contre... le plus cher de la Liga jusqu'ici, pour l'instant, Tchouaméni. Hein.
Voilà, Tchouaméni. Donc, lorsque vous essayez de regarder que ce Real, non seulement a des cadors, a le meilleur joueur du monde, qui est par exemple Karim Benzema, qui a peut-être aussi le meilleur milieu de terrain, sinon
surtout
le véritable
gardien,
moteur, à savoir Modric, ils ont aussi le meilleur
France,
gardien.
Non,
voilà,
France,
donc.
Pas jusque-là, mais ils ont surtout Thibaut Courtois, donc, qui les a sauvés à de multiples reprises.
Mais
et on
sauver,
peut se demander jusqu'à quand Thibaut Courtois va réussir des parades comme il l'a fait
lors de
la saison écoulée.
Ce mano à mano, François, qui pourrait venir jouer les trublions? On a l'habitude ces dernières saisons. C'est toujours l'Atlético Madrid et ces derniers temps le FC Séville. Est-ce qu'on a toujours les mêmes candidats à cette...
Basiquement, oui. L'Atlético Madrid a assez peu renforcé. Ils vont changer de système de jeu. Ils vont revenir aux bases du 4-4-2 qui a fait la gloire de Simeone. Ils s'étaient un petit peu éloignés. Ils avaient mis trois joueurs derrière. Là, ils vont revenir. Maintenant, interrogation de Griezmann qui, je ne sais pas s'il va être titulaire cette année. Il n'avait pas marqué un match officiel depuis janvier dernier. Depuis janvier, il n'avait pas marqué un but. Je crois que l'Atlético compte énormément sur Joao Félix, sur l'avènement, la progression de Joao Félix, qui doit être le joueur
c'est quoi,
qui doit incarner ça.
C'est sa quatrième saison avec l'Atlético.
C'est ça, et sur sa défense, évidemment, mais sur l'avènement de ce joueur-là. Parce qu'ils ont des joueurs, ils sont forts partout. Il y a Morata qui revient. Ça fait quand même un joueur supplémentaire.
Pauvre, je souris parce qu'il est
mais
devant
Balotelli. Ça reste le numéro 9 de l'équipe d'Espagne. Ouais. Ça reste un des joueurs
majeurs. Mais
pas majeurs.
Dans le même style de jeu, c'est ça le problème. C'est ça qui fait douter, c'est que l'Atlético a essayé de changer son style de jeu depuis 2-3 ans maintenant, en recrutant notamment beaucoup d'attaquants. Et c'est vrai, Mateus Cunha, Griezmann qui revient, Luis Suarez qui vient de Barcelone. Et puis en fait, cette accumulation d'attaquants n'a pas fait jouer l'Atlético de façon plus offensive. Parce que dans l'ADN de Diego Simeone,
pas,
c'est la défense et la contre-attaque. Donc, s'il revient à cette méthode, ben, on aura l'Atlético qu'on connaît, pénible à jouer, pénible à regarder aussi, mais qui gagne dès que l'adversaire laisse une faille.
Et Annie, vous me parliez de Séville, justement, pour l'instant, il y a trop de problèmes. Ils ont perdu leurs deux défenseurs centraux, Jules Koundé et Diego Carlos. Ils ont pris Marcao de Galatasaray. Xavier le connaît sûrement au Rémi, mais pour l'instant, il y a un gros problème en défense. Ils ont pris Isco. Voilà, là, c'est l'inconnu. Si Isco refonctionne au niveau du Real Madrid, Rémi m'arrêtera, mais Ligue des Champions 2017, je crois, où il est titulaire en numéro 10, derrière Cristiano et Benzema. Là, attention, il revient sur ses terres, c'est quelqu'un du sud, il vient de Malaga, Séville, c'est peut-être le meilleur club pour lui, c'est la grosse inconnue. Si Isco revient à ce moment-là, oui, peut-être Séville est un candidat, je ne dirais pas pour le titre, mais pour les trois premières places.
En tout cas, pour ce qui est du programme Osasuna FC Séville, justement, pour lancer la Liga, durant le week-end, le FC Barcelone rencontre le Rayo Vallecano, donc avec ou pas son effectif recruté. Le Real Madrid ira jouer à Almeria et l'Atlético Madrid ira, lui, dans la banlieue de Madrid, jouer contre Getafe. Et puis Rémi, eh bien, le classico que vous attendez déjà, je le sais, ça sera le 16 octobre pour ce qui est du premier classico. Et ça sera le 250e de l'histoire, le 16 octobre, avec retour au Camp Nou le 19 mars prochain. Il y a la Serie A aussi qui reprend, mais on vous en a parlé avec Matteo Cioffi au cours de la semaine. Alors on continue, on va parler un peu Ligue 1.
De l'impatience, pas de nervosité, mais vraiment une réelle envie de découvrir le parc, et cette fois-ci du bon côté, c'est-à-dire sur le banc de droite.
Il est né à Marseille, mais il a toujours pris soin de ne pas se montrer trop pro-supporter de l'OM. Il a même parfois fait des œillades au Paris Saint-Germain. Christophe Galtier, natif de Marseille donc, mais le voilà assis sur le banc du Paris Saint-Germain. Et Paris apparemment l'a plutôt bien accueilli, en tout cas en fin de saison dernière, lorsqu'il a commencé son travail. Christophe Galtier, qui a donc pris en main cette équipe, on voit un entraîneur bien différent de Mauricio Pochettino. Il est souriant, il parle plutôt en conférence de presse et c'est plutôt intéressant. Samedi, ça sera son baptême et ça sera contre Montpellier sur la pelouse du Parc des Princes. Est-ce qu'il bénéficie, Xavier Barret, d'un état de grâce ?
Évidemment. Évidemment, mais comme tous les entraîneurs qui ont débarqué à Paris ces dernières années, Laurent Blanc...
Oui, c'est vrai que Thomas Tuchel avait été très bien reçu.
Unai Emery. Ils avaient tous été bien reçus. Pochettino, il avait été accueilli par un grand tifo des supporters, ancien capitaine du club. Voilà. Et puis après, c'est les résultats qui vont lui donner raison ou pas. Galtier, il arrive avec un a priori favorable.
Il n'y a rien de différent par rapport à la préparation, par rapport aux stars, par rapport à la tournée qu'ils ont faite.
Il y a eu effectivement beaucoup de communication pour dire, voilà, maintenant, on resserre les rangs, on verrouille les joueurs pour qu'ils ne fassent plus de fantaisie, qu'on remet de la discipline. Bon, c'est le début. Pour le moment, ça se passe bien. Un carton contre Nantes en Trophée des Champions. Un carton à Clermont en première journée.
Ils sont en manque de carton,
mais c'est pas là qu'on attend le PSG. On va l'attendre déjà après le tirage au sort dans les poules de la Ligue des Champions, parce que forcément, ils auront au moins
un gros.
Et
ça viendra vite.
Et puis, il va y avoir cet enchaînement avec tous ces matchs jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, Galtier, pour le moment, effectivement, il joue sur du velours.
Rémi, état de grâce de Christophe Galtier vis-à-vis de l'extérieur, on va dire, mais peut-être aussi avec ses stars. On a l'impression que les images qui filtrent, hein, pareil, c'est toujours de la communication, mais ça montre bien que pour l'instant, ça se passe bien avec Neymar, avec Messi, avec Mbappé.
Ça commence toujours bien.
Et Ramos.
Et ça se termine toujours mal, on sait déjà ça, mais bon... C'est vrai, ça commence bien parce que même.
Non,
mais attendez, parce que même au niveau.
Même au niveau. Ancelotti à l'époque. Oui,
ça, même au voir, c'était très bien avec Ancelotti. Lui, c'était plutôt Dieu sur terre. Donc, lorsqu'on essaie de regarder aujourd'hui ce qui est en train de se passer, surtout, je pense qu'il a vraiment beaucoup de chance parce que là, il commence avec Nantes et puis il cartonne. Et puis, on va aussi se dire que là, il va trouver qui ? Montpellier, 13e. L'année dernière, et qui d'ailleurs on a vu face à Crystal Palace se faire exploser 4-2, gagner 3 difficilement. Donc oui, c'est vrai, au début de la compétition, le Paris Saint-Germain, il commence très très fort, il survole tout et tout ça, au niveau du championnat, ils vont tout écraser.
Bon,
mais malheureusement, en Ligue des Champions, on va découvrir autre chose. Donc Ah, ici, en Ligue 1, il y a la formule qui est claire, c'est le proverbe africain, c'est-à-dire que le crapaud ne saute haut que devant la grenouille.
Et en plus, Galtier, là, profite
vous
de l'effet...
Vous la commentez, vous, cette Ligue 1 en Espagne?
Oui, ouais, ouais. Je la commente et je commente la Ligue des Champions aussi. C'est plus compliqué. Mais je trouve que Galtier a en plus l'effet Coupe du Monde. C'est-à-dire que les stars, là, sont vraiment à 100%. Parce qu'ils veulent se préparer pour la Coupe du Monde qui va commencer en novembre. Donc Messi est à fond, Neymar est à fond, Mbappé va l'être. Mais je dirais que contrairement en fait, à Tuchel, Emery et tout ça, quand le nom de Galtier a commencé à être filtré, il n'y a pas eu une effervescence du côté des supporters qui disaient « Oh, Galtier arrive, génial !» Et petit à petit, le nom est entré dans les têtes des supporters et il a eu l'intelligence de se faire aimer, je trouve, à travers les bonnes déclarations. Une présence, oui, une présence paternelle.
Puis il a déjà eu des bons résultats
ça,
en Ligue 1
oui,
en plus.
Ça, mais quand le nom de Galtier avait été soumis au départ, je crois, il y avait plusieurs noms pour succéder à Pochettino, les gens disaient oh non, Galtier, etc.
Il n'a rien gagné sur le plan européen.
On parlait de Zidane. Quand on parlait de Zidane et Galtier, les gens étaient à 100% pour que Zidane arrive. Je peux comprendre. Mais Galtier, finalement, était le choix de Campos, je pense, depuis le début, de Luis Campos, le directeur sportif, celui qui prend les décisions. Il s'en est tenu à ce choix-là. Et pour l'instant, effectivement, on voit des sourires. Alors, je ne sais pas comment ils communiquent avec Messi,
parce que c'est quand même
avec
parce que...
Neymar. Ou...
En espagnol, je crois, mais bon, ils sont tous un peu bientôt au français. En tout cas, si les stars sont bien traitées et sont souriantes, pas de quartier pour les autres. Le nouveau conseiller sportif, puisqu'il n'est pas directeur sportif, mais conseiller sportif que connaît bien Galtier, Luis Campos, le portugais, est arrivé pour faire le ménage en disant aux joueurs... qu'il les mettait dans un loft. Alors, qu'est-ce qu'un loft? On entend de plus en plus ce nom, ce mot. Ça faisait la une hein, de l'équipe hier. Nos amis parlaient de loft stories, les histoires de loft. Alors d'abord, quand on regarde la définition, c'est un appartement aménagé en fait, dans un ancien local qui a été professionnel. Atelier, entrepôt. Alors, il n'y a pas beaucoup de murs. Et au 19e siècle, ce sont les artistes en fait, qui ont beaucoup mis ça à la mode. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et ils se retrouvaient dans ces endroits-là pour peindre, pour sculpter et tout. Et puis, est passé par là, alors depuis dans les années plus récentes, avoir un loft, surtout dans Paris, c'est quelque chose, ou à Barcelone certainement.
C'est un signe de richesse.
Voilà, c'est un signe quand même d'une certaine aisance. Et puis, un programme télévisé est passé par là. Alors là, on avait mis dans un loft, dans un appartement comme dans ce genre, des gens un peu désœuvrés et qu'en plus, on filmait jour et nuit. Voilà que ce mot revient à la mode. Là, il est quand même encadré, ce mot loft, du côté des clubs, mais on y met... on y punit, on va dire, les joueurs qu'on ne veut plus voir dans l'effectif. Alors, ce n'est pas qu'à Paris, il y en a aussi à Marseille, il y en a aussi à Lyon. Et vous allez l'entendre, au Paris Saint-Germain, on y a mis beaucoup de monde déjà, des Allemands, Kerrer et Draxler, le Français, Kurzawa, on a mis aussi l'Espagnol, Herrera. Et hier, après l'Argentin Paredes, eh bien, Christophe Galtier a mis quelqu'un d'autre dans ce loft.
J'ai vu Mauro en début de semaine pour lui préciser que voilà, je vais restreindre encore le groupe et que je veux pas travailler avec 25 joueurs de champ. Ce n'est pas possible d'avoir des joueurs sur les côtés. Je ne veux pas me rabâcher. Est-ce qu'il a des propositions? Est-ce qu'il a des sollicitations? Quels sont ses souhaits? Je ne le sais pas. Le club travaille en étroite collaboration aussi avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Mauro a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons. Je pense qu'il est important pour lui qu'il se relance.
Rémi, être dans le loft, c'est être puni, c'est être mis au piqué, c'est être même à la méthode, on parlait de la méthode utilisée par le Barça qui filtre la presse. Là, c'est un peu les mettre au banc du club, les méchants.
Mais tout de suite, là, on m'a dit que Galtier communiquait très, très bien. Mais il n'a pas à venir faire cette déclaration guerrière. Parce que vous voulez vous débarrasser d'un joueur. Et vous commencez à dire que j'ai déjà mis tel en quarantaine, je l'ai mis à tel ou tel endroit.
Bah, il a 54 joueurs dans son effectif.
Mais attendez,
il n'en veut que 25.
Le problème, c'est un discours de franchise. Quand on était ici, tu étais celui-là. Lorsque je doutais d'Icardi, tu m'as dit oui, c'est une très belle recrue. Et tu as vanté Icardi ici. Je t'ai dit qu'il allait se planter. Vous avez dit que vous vouliez Di Maria. Finalement, est parti gratuitement. Vous prenez des joueurs. Maintenant, vous voulez Rashford.
C'est pas moi qui fais les choix.
Vous voulez Rashford, on va le mettre où? Dans le loft. C'est-à-dire qu'on recrute des joueurs, vous les mettre dans le loft. Le Paris Saint-Germain ne fait que...
C'est vrai que... Messi et Neymar ne sont pas dans le loft, ni Mbappé quand même.
N'oubliez pas que jusqu'au début de la saison, on nous faisait comprendre qu'on ne veut plus de Neymar au Paris Saint-Germain, non. qu'on voudrait plutôt le vendre. Et Neymar a dû batailler parce que même le président disait que bon, maintenant, c'est fini, la samba, les soirées de gala et tout. Moi, aujourd'hui, ce qui est dans le Paris Saint-Germain, c'est qu'effectivement, en accumulant des joueurs, et d'ailleurs, on ne fait qu'acheter d'autres qui peut-être ne peuvent pas s'imposer, puisque n'oubliez pas que Wijnaldum a été acheté et on nous disait que voilà la star qui est en train d'arriver.
Alors le joueur de Liverpool, il est parti. À la Roma.
Finalement, il y a un proverbe africain qui dit « En voulant trop se faire beau, le singe a fini par s'en laidir. »
Xavier, une chose, ce loft, il doit se terminer à la fin du mercato. C'est-à-dire que si les joueurs ne sont pas vendus ou ne partent pas, ils devront être réintégrés à l'équipe professionnelle. Mais...
Ils devront être réintégrés à l'entraînement, au fonctionnement de l'équipe professionnelle.
Exactement.
Mais après, si le coach n'en veut pas dans son groupe,
il les laissera. Mais en tout cas, à l'entraînement, ils ne seront pas mis à part. Mais est-ce que quand même, ce n'est pas retourner le problème? C'est-à-dire le PSG a trop recruté ou a mal recruté et maintenant, on montre ses joueurs du doigt.
C'est comme ça dans tous les grands clubs. Dans tous les grands clubs, effectivement, vous avez un directeur sportif, un entraîneur, je veux un tel, je veux un tel, je veux un tel. On parlait de Barcelone tout à l'heure. Et puis, un autre arrive et il dit, bah oui, mais lui, j'en veux plus, etc. Et donc, au PSG...
Regardez, Jérôme Boateng, l'année dernière, il est arrivé à Lyon, on le voulait et maintenant, on le met à part.
Et je pensais que c'était une erreur, je l'avais dit dans cette émission et ça, c'est confirmé.
Mais c'est donc, pas de la faute
voilà,
de Boateng.
Donc du coup, ce qui se passe...
Ils ont un contrat, ces joueurs.
Bien sûr, vous avez raison, Annie, mais regardez, pourquoi est-ce qu'on a prolongé Kurzawa 4 ans à l'époque? Pourquoi est-ce qu'on a prolongé la saison dernière Draxler de 3 ans? Donc, mais ces joueurs, ils ont des contrats, ils sont payés.
Ben oui.
Après, l'entraîneur, il fait ses choix. Il a 11 joueurs, il le dit, Galtier.
Oui, mais je travaille pas avec 25. Du doigt.
Mais on les montre pas du doigt. Il dit voilà, je prends ceux-là.
Ah bon
donc, par définition.
Par définition. Mais non, mais c'est les méchants. Ceux qui veulent pas partir et qui préfèrent rester avec des gros salaires au Paris Saint-Germain et gêner finalement le club.
Eh bien, ils sont payés. Ils sont des conditions d'entraînement parce qu'effectivement, le syndicat des joueurs et la charte du football professionnel obligent à ce qu'ils aient un entraîneur, etc. Et ça, c'est très bien. Après, l'entraîneur fait son choix. Il doit retenir 11 noms et 6 ou 7 remplaçants.
Donc
ceux qui n'y sont pas, eh ben, ils se retrouvent de côté.
C'est
comme ça dans toutes les équipes.
Que c'est dur pour les grands clubs de sortir des joueurs. Que c'est dur. Bon, on parlait du Barça, ils ne veulent pas partir de Barcelone. Ils sont grassement payés.
Bah,
ont le soleil, les palmiers à Paris. Ils ont la copine qui fait...
On commence à voir les palmiers et le soleil.
Oui, oui, oui. Ça peut durer.
Non, mais
la copine qui fait les selfies à Notre-Dame ou la Tour Eiffel, ils ne veulent pas partir de ces clubs-là. Paris, Real Madrid, Barça, ils ne veulent pas partir. Donc après, à qui la faute? Ce n'est pas la faute des joueurs, je pense, Xavier.
C'est
la faute de ceux qui ont fait
les joueurs.
Et continuent à le faire.
J'ai l'occasion de parler avec des joueurs, notamment quand je suivais le PSG pour France Football. Les joueurs qui étaient remplaçants à 100 000 euros par mois...
Ils ne veulent pas partir.
Ils ne veulent pas partir. Et à l'époque, c'était des petits salaires.
Je suppose.
Mais bien sûr, les gars...
Non, mais ce n'est pas leur faute.
Mais...
Ils ont signé un contrat.
Ils savent la contrepartie. Bon. Ok, je prends 100 000 ou je prends 200 000 ou je prends 300 000 et on me met dans un placard.
La différence avec avant, Xavier,
le Paris Saint-Germain, comme les autres clubs, essaye de jouer justement la carte compétitivité Coupe du Monde. Mais Mauro Icardi, la Coupe du Monde, il n'a aucune chance d'y aller. Il est fâché avec Messi depuis 5 ans ou 6 ans ou 10 ans. Et il n'y a jamais été en équipe d'Argentine. Donc lui, il préfère rester à Paris et prendre les pétrodollars.
La différence avec avant, où ça ne se savait pas trop, maintenant, il y a ce qui s'appelle les réseaux sociaux, Instagram, où toute la journée, ces gens-là ou leurs familles sont insultés. Tu vas partir, qu'est-ce que tu fais, machin. Voilà,
quand ils sont insultés sur les réseaux sociaux, j'allais dire, c'est pas très grave. En revanche, il y a eu à Marseille à l'époque... des joueurs qui ont été menacés chez eux, agressés chez eux pour
partir. Il y en a deux à Marseille aussi, Strassmann
et
Amavi.
Il faut choisir le moindre.
Qui sont dans le loft. En tout cas, quitter le loft, pourquoi ne pas choisir de retourner aux sources? Alors, on conseille tous, parfois, à Cristiano Ronaldo de retourner au Sporting, finalement. Il serait peut-être plus heureux que dans les brumes de Manchester. Certaines stars, on pense à Diego Maradona, qui était retourné en Argentine, à Boca Juniors, après ses mésaventures. Et aventure du côté de Naples. Les Romario et Ronaldo avaient fait le choix aussi de terminer leur carrière au Brésil. Eh bien, c'est le choix qu'a fait un Uruguayen et il s'appelle Luis Suarez. L'Uruguayen. El Pistolero, le buteur uruguayen qui est passé par de très grands clubs en Angleterre et évidemment en Espagne. Il était du trio magique avec la MSN.
MSN,
c'était le S de la MSN avec Messi et Neymar, bien sûr. Et il a choisi ces derniers temps de retourner au National de Montevideo. Alors, c'est un des deux grands clubs de la capitale. Et l'autre grand club pour le Classico de là-bas, c'est contre Peñarol. Mais alors, ce qui est amusant, c'est qu'en plus, il a 35 ans, il a marqué son premier but avec, contre un club qui s'appelle, je vous le donne en mille, Liverpool. Ouais, alors, mais c'est le Liverpool de Montevideo. Ouais, ouais. Ah, souvenons-nous que Suarez a été aussi le buteur des Reds pendant 3 saisons. Un contrat de 5 mois. Évidemment, lui aussi, il pense à la Coupe du Monde. Évidemment. Il en a déjà fait 3.
Évidemment. Mais là, vous avez l'exemple même, le contre-exemple d'Icardi. Icardi n'a aucun espoir d'aller à la Coupe du Monde avec l'Argentine. Il n'est pas dans la sélection. Luis Suarez, c'est un pilier de cette équipe d'Uruguay, de la Céleste. Et quand vous êtes uruguayen, le maillot de l'équipe nationale, c'est plus fort que tout. Moi, je me souviens d'une interview que j'avais eue avec Diego Lugano quand il était au PSG.
La Garacharua, voilà.
Il me dit, le maillot de l'Uruguay, si on perd, on ne l'échange pas. On ne l'échange pas. On ne donne pas la tunique à ceux qui nous ont battus. C'est chez eux, c'est une deuxième peau. Donc, vous
et
imaginez pour Luis Suarez.
Il a été reçu par 25 000 personnes.
Bien sûr.
Ceux qui nous voient le voient derrière. Et le numéro 9 de cette équipe lui a même offert son maillot.
Mais
parce
bien sûr.
Qu'il était là jusqu'en 2006.
Luis Suarez, il pouvait aller cachetonner au Moyen-Orient, en MLS aux États-Unis, en Chine ou ailleurs. Non, lui, il veut jouer la Coupe du Monde pour son pays. Parce que c'est plus fort que tout. Donc, pour être compétitif, il accepte d'aller rejouer dans un club. Le National Montevideo, ils ne vont pas le payer beaucoup. Mais bon, de l'argent, il en a.
Oui,
mais ce qui est important pour lui, c'est de jouer pour aller à la Coupe du Monde. C'est exactement le contraire de tous les lofters dont on parlait au PSG ou ailleurs.
On espère que Cavani aussi va trouver un club rapidement. Parce qu'il avait une porte ouverte à Boca Juniors. Et Edinson Cavani, il n'a pas voulu y aller. Parce que sa famille, encore une fois, on parlait de la famille. Ils veulent rester en Europe. Je ne sais pas où est-ce qu'il va atterrir. C'est Cavani, mais c'est un joueur important.
Luis Suarez n'a pas voulu aller au River Plate, club par lequel il était vaguement passé à Buenos Aires. Rémi, il y a une autre histoire qui est intéressante aussi, c'est celle de Timo Werner. L'Allemand, il est parti 2 saisons à Chelsea. Ça ne s'est pas très bien passé. Il a 26 ans. Lui aussi aimerait bien disputer la Coupe du Monde avec l'équipe d'Allemagne. Et il est parti se ressourcer du côté du RB Leipzig. Est-ce que vous pensez que là aussi, c'est une bonne idée?
Ah oui, retour au Barça. Il y a d'ailleurs la tradition qui dit, si tu ne sais pas là où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Je suis quand même surpris de voir Xavier Barré en train de trembloter par rapport au patriotisme uruguayen, le même qui, la semaine dernière, nous disait, oh non, les joueurs africains, normalement, ils sont payés par d'autres clubs européens, donc normalement, ils ne doivent pas écouter les sons qui viennent de l'Afrique parce qu'ils sont payés ailleurs. Maintenant, il nous dit, les autres, quand ils portent le maillot, ça entre dans le corps, ça va dans la tête, ça veut dire ceci. Mais Xavier Barré, il faut arrêter ça. C'est pour ça que je dis que Timo Werner, j'accepte qu'il ait ses ressources. De même que tu devrais accepter aussi que les joueurs africains, qu'ils soient en fin de carrière ou même qu'ils aillent jouer la CAN, que c'est d'abord la patrie. Patrie.
Mais à ce moment-là, ils renoncent à leur contrat.
Timo Werner a choisi exactement comme les joueurs africains choisissent souvent.
C'est malhonnête.
J'ai dit, c'est une très, très bonne chose, monsieur Xavier Barré. Ne continuez pas à faire avec votre langue d'hyperine.
Tu crées une confusion dans l'esprit de nos auditeurs.
Ah, mais attendez.
Là, on parle de Luis Suarez, joueur en fin de contrat, qui préfère aller jouer pour son pays, dans son pays, plutôt que d'aller cachetonner ailleurs. Toi, tu nous dis il faut que les joueurs africains qui sont sous contrat avec des clubs européens ne respectent pas leur contrat pour aller jouer pour leur pays.
Donc
c'est pas du tout la même chose.
Non, quand tu me disais
c'est pas
que
du tout la même chose.
Tu crées à tort
la confusion dans l'esprit de nos auditeurs.
On reprend pas le débat de la semaine dernière, s'il vous plaît. En tout cas, Timo Werner, on lui souhaite le meilleur. Peut-être que, d'ailleurs, Thilo Kerrer et Julian Draxler,
ça leur ferait pas de mal
d'aller faire un petit tour du côté de la Bundesliga.
Le PSG en rêve.
Certainement. Bon, peut-être qu'ils nous écoutent. On continue, chers amis, et on va passer du côté de la séquence que vous attendez beaucoup, c'est celle des cartons.
Carton jaune.
Un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Et tout de suite, on va vers vous, chers auditeurs, internautes et tous ceux qui nous suivent et qui sont fidèles. Selon David Finzel, la cuvée du jour est très bonne.
Salut l'équipe Radio Foot, salut à tous les auditeurs. Mohamed Abdelkarim, Mohamed, étudiant tchadien au Togo. Un carton vert au Real Madrid pour avoir commencé la saison avec un trophée et nous montrant un jeu très convaincant. Je suis convaincu que les 5 restes des trophées sont en téléchargement. Rémi Ngoni, le CV.
Salut, c'est Dodji depuis le Togo, précisément à Aného. Je donne un carton vert à Christophe Galtier, le nouveau coach du PSG qui est en train de faire un travail énorme actuellement au PSG. Je reste optimiste que les performances du PSG cette année feront taire les critiques anti-Galtier. Félicitations à lui. Courage à lui.
C'est Ibrahim Ba depuis la Guinée-Conakry. Je donne un carton vert aux Blues de Chelsea pour le démarrage de cette nouvelle saison par une victoire. Bonne chance aux Blues de Chelsea.
Bonjour Radio Foot International, c'est Yalou Mohamed Salou depuis Tripoli. Je donne un carton vert à mon équipe d'Arsenal pour leur bon début de saison. Cette année, on donnera tout pour remporter la Premier League et la Ligue Europa. Je te salue mon cher Xavier Barry, l'un des meilleurs fans d'Arsenal. Un Guinness ne baisse jamais le bras.
Bonjour Radio Foot International. Bonjour Annick et toute l'équipe. Je m'appelle Doro Magassa, Sénégalais vivant en France. La couleur de mon carton est vert et va à l'encontre de ce businessman, de ce protagoniste, de ce homme d'homme de Jean Laporta. Il s'agit bien évidemment de Matteo Alemanni qui nous a fait un mercato exceptionnel et espérons que cette année on verra le bout du tunnel. Je pense que Xavier Barré doit être content de notre mercato. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Ciao, ciao.
Bonjour Café de Sport, Armand qui bat de Pointe-Noire. Je donne un carton vert à Karim Benzema qui vient encore de s'illustrer en marquant le deuxième but contre l'Eintracht Francfort lors de la finale de la Super Coupe d'Europe. Bravo Karim Benzema, bravo le futur Ballon d'Or. Merci.
Salut, salut Radio Foot International, je vous suis depuis Yaoundé au Cameroun. J'aimerais envoyer un carton, donner un carton vert à un attaquant de Coton Sport de Garoua, une équipe de MTN Elite One dans la région du Nord Cameroun. Il s'appelle Patient Wasso, il a été meilleur joueur et meilleur buteur du championnat. C'est un talent. Il a de l'avenir et beaucoup de courage à lui. Merci.
Bonjour Radio Foot International, c'est Ousmane Ba depuis Niordrup, Sénégal. Carton vert à Sadio Mané pour son adaptation express avec la Bayern de Munich et ses débuts réussis. Le meilleur joueur sénégalais de tous les temps, l'enfant terrible du football africain, le joueur le plus aimé du monde a du feu dans les jambes.
Je suis Elias Douamba depuis Abidjan. J'adresse un carton rouge à la CAF qui est en train de vouloir instaurer une super ligue africaine de football. Et je suis contre ce projet parce que je ne vois pas ce que ce projet va apporter au football africain. Carton rouge à vous, prenez cet argent pour aider les clubs africains, aider les dirigeants qui souffrent, aider le football africain qui souffre d'une autre manière. Carton rouge à vous, c'est Elias Douamba depuis Abidjan.
Radio Foot International, c'est Franck Mvendo depuis Kinshasa. Carton vert à Sébastien Desabre qui est le choix de la FECOFA. Nous savons que le moment est très difficile, tu as un grand défi à relever, mais tu souhaites bonne chance et bienvenue à la tête des Léopards. Les Léopards, Fimbo na Fimbo.
Colani Raphaël de Lomé, je donne un carton vert, vraiment vert, à monsieur Kodjouvi Obilale, qui a organisé un tournoi de détection des jeunes talents des U15. Vraiment, les jeunes se sont régalés sur le terrain. Ce monsieur, malgré tout ce qu'il a vécu, continue pas à s'investir dans le football. Comme le dit un proverbe africain, quel qu'en soit l'épaisseur des nuages, il ne peut pas cacher les rayons solaires sur la terre. Merci.
Kodjouvi Obilale, que l'on salue hein, ici dans le Café des Sports. On l'a reçu dans cette émission plusieurs fois et c'est un épervier qui ne baisse pas les bras. François, votre carton, de quelle couleur et à qui ?
Bah moi, carton vert et un club, on entend beaucoup parler depuis quelques temps, c'est l'Olympique de Marseille. Moi, je trouve que l'OM a le meilleur président de France, le plus actif, le plus moderne. Je dirais le meilleur directeur sportif aussi parce qu'il fait les double casquettes. Pablo Longoria, que je connais bien du coup par rapport à l'Espagne, et je trouve que c'est le plus réactif. Et grâce à lui, l'OM s'est renforcé. Je trouve le meilleur effectif que l'an dernier. Il a su traverser la crise Sampaoli pour mettre un entraîneur qui, pour sa première journée, a bien fait les choses.
Il a un super effectif, pas de quoi, je pense, rivaliser face au PSG. Mais voilà, carton vert pour Longoria, qui, je pense, est le meilleur actuellement par rapport au... déjà, il a 34 ans et par rapport au... à ses confrères.
Rémi.
Alors.
Je vous vois sourire.
Ah oui,
pourquoi ce sourire?
Parce que j'ai vu mon image apparaître pendant qu'il parlait. Alors, c'est Dalla Zoumanigui. Dalla Zoumanigui, de ma page Facebook, Rémi Ngono, qui donne donc un carton jaune à ce monsieur que vous voyez là, c'est-à-dire Mohamed Bouya Touray. C'est un Sierra Leonais qui joue à Malmo et il devait se marier. Et finalement, son club lui a dit que bon, tu ne peux pas te marier parce que justement, on
vient
de faire
le play.
Ils avaient un match très important.
Préliminaire européen.
Voilà, il aurait dû peut-être repousser un peu son mariage, mais qu'est-ce qu'il fait? Le gars envoie son frère aller se marier à sa place avec sa femme. Donc, imaginez la séance des.
C'est pas lui, mais le problème c'est quoi?
Si vous ne faites pas ça, le mariage n'est pas valable.
Donc il a
envoyé son frère. Imaginez ce qui peut se passer après si son frère prend un peu goût. Il y a un proverbe africain qui dit la femme est un épi de maïs que toute bouche peut croquer à condition qu'elle ne soit pas édentée.
Merci Rémi pour ce grand proverbe. Allez, à vous Xavier Barré, c'est à vous de reprendre.
Difficile de rebondir après ça. Parce que,
c'est toujours difficile de rebondir après Rémi.
Là, c'est une plus triste histoire. C'est Vahid Halilhodžić qui est à nouveau débarqué.
Mais quel carton?
Carton vert, parce que quand même, il qualifie le Maroc pour la Coupe du Monde. Alors, c'est pas exceptionnel, c'est la sixième fois que le Maroc se qualifie, mais c'est quand même une belle performance parce qu'on sait le niveau des éliminatoires, notamment des barrages dans la zone Afrique, il les qualifie, et puis au mois de mars, donc au mois de juin, ils font des matchs de préparation. Alors, effectivement, ils perdent aux États-Unis, mais bon, tout se passe, ça continue. Et puis là, mi-août, on apprend qu'il est débarqué.
C'est la troisième fois qu'il obtient
des résultats, on lui fait confiance, on le met sur un projet, puis au dernier moment, on le débarque. Je trouve ça quand même pas clean. Et je trouve chapeau à Vahid parce qu'il continue avec sa passion, malgré son âge, à continuer à entraîner des équipes avec passion.
Le carton de Radio Foot International est jaune et ce carton va à Giorgio Chiellini parce que lui aussi a copé d'un carton jaune. Et alors pour ceux qui ne connaissent pas la scène ou qui ne l'ont pas vu, Giorgio Chiellini joue désormais à Los Angeles et il a été un peu pris de court sur une course, lui qui approche la quarantaine ou qui l'a dépassé, je ne me souviens plus bien, mais enfin bon, qui est en pré-retraite. Et il a mis les mains parce qu'il a trouvé que finalement, pour arrêter l'action, alors il y en a d'autres, on pense à Luis Suarez, lui aussi il avait mis les mains lors d'une certaine Coupe du Monde face au Ghana. En tout cas, lui, il a fait
ça.
Du
basket, là-bas.
Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? C'était contre le Real Salt Lake. On peut lui dire quand même, pas toi, Giorgio. Non, pas ça. Pour terminer, j'aimerais vous montrer une photo. Et c'est l'un de nos amis de Radio Foot International. C'est le grand Carlos Bianchi. Durant le week-end en Ligue 1, il y aura un match. Et ce match, c'est Nice-Strasbourg. Deux clubs. L'un, il l'a entraîné. L'autre, il avait joué. Et il donnera le coup d'envoi au stade de Nice, au stadium de Nice. Il avait été l'entraîneur du gym lorsque ce match est resté dans les mémoires du côté de Nice. Nice l'avait emporté sur le score de 6-0. Donc Carlos, ira là-bas et on lui remettra le trophée des anciens aiglons qu'on remet aux grands aiglons qui sont passés par ce club. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup François David.
Merci Annie.
Revenez quand il y a des classicos, quand il se passe quelque chose, repassez par notre studio. Merci à tous. Merci Xavier, Rémi. On retourne dans la fournaise qui nous attend à l'extérieur des studios parce qu'à Paris il fait chaud. Merci à tous et bon week-end. Portrait libre.